Salut tout le monde, bienvenue à une autre édition de Sortie de zone. Merci encore une fois d'être là en notre compagnie. Encore une fois, on a fracassé des records de cote d'écoute. Je sais pas si j'ai le droit d'en parler vendredi dernier.
Pour vrai?
Malade. Combien? Malade. En haut de 10 000. Ouais, il y a plus de 10 000 personnes qui nous ont écoutés vendredi. Donc, à chaque semaine, on continue d'empiler les bonnes nouvelles. Donc, tant mieux à ce niveau-là. Jérémy Rainville, que vous venez d'entendre, bien sûr, est à mes côtés. Salut, Jérémy.
Salut, Philo.
On a aussi Simon-Olivier Larange de La Presse. Salut, Simon-Olivier.
Salut, Philo.
Et Alexandre Pratt de La Presse aussi. Salut, Alex.
Bonjour, messieurs.
Vous me connaissez, moi, c'est Jérémy Filosa. Et là, ben, il faut commencer à tout seigneur, tout honneur avec les prouesses de Cole Caulfield qui, pour un deuxième match consécutif, donne la victoire aux Canadiens en prolongation. Y a-tu du 3 contre 3 en série? Non, ça marche pas, hein, ça. Maudite affaire de
maudite
affaire.
Hein, c'est dommage.
Écoutez, 3 victoires de suite. Qui l'eût cru? Quand on s'est parlé ici vendredi, je pense que personne qui pensait qu'on se retrouvait dans cette situation-là aujourd'hui. 3 victoires dans lesquelles le Canadien revient de l'arrière, avec plusieurs absents aussi, on va en parler là, durant l'émission, mais surtout, avec un jeune homme qui est en train de nous redonner goût de regarder cette équipe-là, entre autres, en partie, Cole Caulfield. Jérémy, veux-tu commencer là-dessus?
Oui, avec plaisir. Oui, tu dis redonner goût. Moi, je dirais redonner le sourire à cette équipe-là qui l'avait perdue au courant des dernières semaines. Ce jeune homme-là est talentueux. Je pense qu'il faut être réaliste, tu sais, puis je pense qu'on est rendu assez mature collectivement pour comprendre que là, il y a personne qui est en train de se faire une statue, là. Mais il faut, on n'a pas le choix de lui donner que ce gars-là a un talent unique pour lancer. Même on l'a vu pendant le match hier, là, où on parle de son brio, lors de la prolongation, qui donne la victoire aux Canadiens pour un deuxième match de suite. Mais en avantage numérique, j'ai pris une note, là, 10-33 en avantage numérique sur la deuxième vague, frappe le poteau de plein fouet. Oui. Tu sais, c'est une question de temps que ça débloque en temps réglementaire. Là, on lui donne des opportunités qui sont excellentes pour lui. Moins d'hommes sur la glace, 3 contre 3. Plus de liberté. Et aussitôt que le club adverse fait une erreur de couverture, ce qui était le cas dans le cas de Nylander, qui est allé sur Jeff Petrie, qui a attiré 2 joueurs, ça a libéré Caulfield. On a vu sa qualité première, c'est son lancer. Et puis, tu sais, quand un but, t'entends le ping avant, là, ping, ça rentre, ça, c'est parce qu'il y a de la précision là-dedans. Exact. C'est ce que Caulfield est capable de faire. C'est spectaculaire, c'est le fun. Puis, c'est juste le sourire que ça amène à tout le monde, ça va à peine.
Simon-Olivier?
Ben là, moi, je suis toujours celui qui évite de s'emballer puis qui essaie de modérer les attentes et gna. Mais néanmoins, moi, je suis le Canadien depuis, je dirais, un peu après la Coupe Stanley de 93. J'ai aucun souvenir d'un joueur depuis ce temps-là qui a un tel flair offensif que Cole Caulfield. Puis on s'entend, il joue présentement dans la même équipe que Tyler Toffoli, qui est peut-être le meilleur buteur du Canadien depuis aussi des années. Mais ouais, il y a quelque chose avec Caulfield qui, la manière qu'il se comporte, la manière qu'il tire de partout. Je sais plus c'est quel match récemment qu'il a tiré sur une patte en recevant une passe un peu tout croche de John Merrill, puis c'est devenu une chance de marquer. C'est vraiment, puis on l'a vu dans le match d'hier, donc de lundi soir, qu'il avait changé d'aile, il avait changé de place avec Jesperi Kotkaniemi sur l'avantage numérique, était rendu, si on veut, à la gauche du gardien de but, donc sur son coup droit. Et il est aussi dangereux, il est aussi efficace. Sa vitesse pour dégainer est hallucinante. On s'en sort pas, là. On va toujours se répéter que 5 matchs ne font pas une carrière, que ses 2 buts sont en prolongation et ceci et cela. Mais je suis extrêmement impressionné. Puis je pense qu'effectivement, ça arrive comme une rare, très bonne nouvelle pour les partisans présentement.
Alexandre?
Ben moi, j'aime vraiment son implication. T'sais, oui, son talent de tireur, mais c'est quelqu'un qui est tout le temps dans l'action, ou presque, quand il est dans le jeu. T'sais, c'est quelqu'un qui va chercher la rondelle, c'est quelqu'un qui applique de l'échec avant, c'est pas quelqu'un qui est passif. Puis je trouve que, tu sais, dans les dernières années, on en a eu là, des marqueurs à Montréal, mais c'était quand même des joueurs qui restaient quand même beaucoup en périphérie, tu sais, puis qui faisaient pas toujours le travail eux-mêmes. Et je trouve que tous ceux qui avaient des doutes, en fait, sur sa taille présentement, je ne trouve pas que c'est un facteur. Tu sais, oui, on voit qu'il est plus petit, mais il joue plus grand, en fait, que ce qu'il est. Ça m'encourage beaucoup. Puis, tu sais, de voir un joueur de 21 ans qui se défonce comme ça, t'sais, match après match, oui, c'est sûr, là, il y a la découverte de la nouveauté. Puis, tu sais, quand t'es nouveau, tu veux faire ta place, tu veux rester dans l'alignement. Mais il y a une énergie, en fait, à laquelle on n'a pas nécessairement été habitué, là, peut-être à part Suzuki puis Gallagher, mais c'est pas un grit là en anglais qu'on voit souvent chez les joueurs du Canadien. Moi, je suis franchement impressionné, puis évidemment, ben son tir hier était absolument remarquable, puis beau jeu d'Armia d'ailleurs qui est allé couvrir le gardien devant le filet là-dessus. Mais c'est vraiment un tireur élite comme on en a rarement vu là dans les 30 dernières années à Montréal.
Et ce que j'aime, moi, peut-être un petit quelque chose là, que j'aimerais rajouter, c'est puis tu sais, il y a des gens là qui nous, c'est arrivé souvent en tribune téléphonique, c'est quoi ça l'histoire, il y a un bâton rapide, tu sais. la rapidité, de la capacité qu'il a de bouger rapidement son bâton quand il va en échec avant, ça amène souvent une erreur ou ça amène, ça brusque l'équipe adverse à poser un geste plus rapide parce que, tu sais, on s'est questionné à savoir ce qu'il a la rapidité. Il est rapide, il est capable de tenir son bout dans la Ligue nationale, mais en même temps, il est intelligent, il est tellement vif dans ses mouvements que ça provoque souvent pas nécessairement la passe que l'équipe adverse aurait souhaité. Fait que donc, ça permet aux Canadiens d'être un petit peu plus dans le territoire adverse. Puis lui, c'est pas lui qui va grimper tout le monde dans la vitrée, là. C'est clair, je pense que vous avez vu son physique. Mais il est intelligent dans sa couverture, dans la façon qu'il coupe les angles. Puis ça, c'est à son avantage. On espère que ça poursuive, clairement, là. Mais là, ce qu'on voit, c'est du talent brut. Puis ça, c'est parfait pour le Canadien.
Ouais. Puis surtout, ça nous redonne le goût de regarder cette équipe-là présentement. La ville est Cole Caulfield présentement. Là. Je veux dire, vous pouvez pas faire le tour des médias sociaux.
Je suis d'accord, mais donnons crédit aux Canadiens aussi. Parce que le Canadien joue un bon match. Tu sais, je pense à Jake Evans, je pense à Philippe Dano, je pense à des gars qui ont... Jeff Petrie, là, autant qu'il y a eu de la difficulté au courant des dernières semaines, là, écoute, il est partout sur la glace, il joue bien. Fait que Jake Allen, dans le match d'hier, a sauvé son équipe au moins 4-5 fois facile, sans compter les échappées.
Je peux enregistrer ce que tu viens de dire, puis j'aurais pu le passer après toutes les games depuis le début de l'année. Puis ça.
Mais c'est encore pire hier, j'ai l'impression. Okay. Le 2 contre 0, là, t'étais à 3 contre 3, 2 contre 0.
Deux échappées en plus.
T'sais, écoute, ben, là, il y a eu un peu de chance, facteur chance, parce que Tavares a frappé le poteau. Mais clairement, il faut rendre crédit à l'ensemble de l'équipe. Oui, Caulfield, mais l'ensemble de l'équipe également.
Mais en tout cas, comme j'ai mentionné tout à l'heure, tu sais, Dano disait après le match hier, tu sais, c'est un homme qui aime se lever dans les grands moments. Écoutez, là, il a joué 2 matchs en Ligue américaine, il a marqué 3 buts. Là, il est là avec le Canadien. En 5 matchs, il a marqué 2 fois. Donc, il trouve le moyen de concrétiser. Et là, écoute, à des moments vraiment important. Il donne la victoire à son équipe à 2 reprises. Et souvent, là, juste pour déroger un peu de Cole Caulfield, mais j'ai l'impression que dans la Ligue nationale, souvent la prolongation sauve le spectacle. Tu peux avoir une game plate dans la soirée, c'est 1-1 ou c'est 2-2, il s'est pas passé grand-chose. Puis là, t'arrives en prolongation, mais là, il y a plus personne qui bouge de son sofa.
Moi, j'aime tellement pas ça.
C'est spectaculaire.
Ah, ben oui.
Parce que tu sais que la victoire est là au bout de tes doigts, puis elle peut t'échapper à n'importe quelle seconde.
Mais pourquoi t'aimes pas ça, Jérémy? Je suis vraiment curieux. Là. Okay.
J'aime pas.
J'étais au bout de mon siège.
OK. J'aime pas ça parce que je trouve que c'est une belle représentation de spectacle. Vous avez raison. Mais pour moi, c'est pas la nature du hockey. Tu sais, quand t'es en territoire adverse, que tu sors de la zone juste pour garder possession de la rondelle, que
t'attaques. C'est bizarre, c'est sûr.
On
n'est pas habitué à ça.
C'est un bon show, je comprends, mais c'est de l'anti-hockey. C'est pour ça qu'on arrive en série, puis il n'y en a pas, parce que c'est juste un spectacle. C'est un spectacle qui amène une conclusion, on le souhaite, plus rapide au match. Tu sais, moi, personnellement, tant qu'à ça, je ferais tout de suite le tir de barrage, puis on n'en parle plus. Allez, enlève le 3 contre 3. De voir Austin Matthews. Puis là, heureusement, le Canadien a gagné en prolongation, mais de voir Austin Matthews qui contrôle la rondelle pendant 2 minutes, c'est-tu vraiment le fun?
Mais en tout cas, moi, juste pour parler de ça, parce que c'était pas prévu qu'on parlerait de ça, mais moi, je me gênerais pas de mettre ça à 4 contre 4 en prolongation. 4 contre 4.
Arrête.
Alors,
jamais.
Mais t'es là pendant des heures, tu regardes, il se passe rien. 3 périodes de prolongation, les tirs au filet, 3-2 par période et comme tabarouette.
On va finir ça en tir au but comme à la Coupe du Monde.
Simon Olivier. Non, pas ça. Non, ça, je suis pas d'accord. Simon Olivier, oui.
Ce qui me dérange dans cette histoire-là, juste intervenir rapidement, c'est je suis un peu dans le camp de Jérémy que je trouve que c'est pas représentatif du hockey, mais en soi, je trouve que c'est tellement un gros ajout au spectacle que maintenant, c'est rendu inhérent à une saison. Cependant, moi, ce qui me dérange, c'est que la victoire en prolongation a la même valeur qu'une victoire à la régulière en 60 minutes, alors que clairement, on a comme débloqué un autre tableau dans le match, puis on l'a pas gagné de la même manière. Fait que moi, je comprends pas qu'on donne la même valeur au classement à tous ces matchs-là, mais sinon, je suis comme tout le monde. Là, hier soir, la prolongation, c'était on avait plus de fun sur la galerie de la presse qu'au cours des 60 minutes d'avant. Là.
Mais Alexandre, quand on regarde l'ensemble de l'œuvre, Jérémy, il en a parlé un tout petit peu, mais quand même, depuis l'arrivée de Caulfield, la réalité, c'est que le Canadien a gagné 4 de ses 5 matchs. Okay? Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu le Canadien sur une séquence aussi positive. Selon toi, quelle part des récents succès du Canadien est directement liée à la présence de Caulfield dans l'alignement?
Ben, tu sais, il amène 2 buts quand même gagnants. Fait que c'est clair qu'il y a un impact direct sur le jeu. Je trouve qu'il amène une énergie aussi sur des trios qui étaient plutôt, amorphes ou éteints, là. Tu sais, clairement, Lekkonen a l'air d'avoir beaucoup de plaisir à jouer avec lui, là, comparé à sa présence des derniers matchs. Ceci dit, comme dit Jérémy tantôt, je pense pas qu'il est le seul facteur. Tu sais, il y a un autre joueur dont on n'a pas parlé encore, mais qui vraiment s'est réveillé depuis ce match, c'est Nick Suzuki, qui joue vraiment comme un premier centre présentement de la Ligue nationale. Écoutez, il a 10 points à ses 6 derniers matchs. Hier, il a 3 passes quand même dans le match. Le Canadien a marqué 3 fois. Là, pour tout ce qu'on a pu dire ou écrire sur la léthargie puis la gang de la deuxième année de Suzuki, même si je pense qu'il n'y a pas de gang de la deuxième année de Suzuki, il y a eu un passage plus difficile défensivement, c'est vrai, mais sa production offensive, elle est excellente là, pour un joueur de deuxième année. Là. T'sais, il fait partie là, de la très, très rare haute sphère des joueurs qui augmentent leur production de leur première à la deuxième année. Donc, lui aussi, je trouve qu'il a vraiment eu une part importante. Puis l'autre joueur, pour moi, c'est Jeff Petrie. Petrie est vraiment redevenu le joueur dominant qu'il était en début de saison là, depuis quelques matchs. Je pense que c'est une combinaison des trois qui fait que l'équipe vient de passer à un niveau supérieur. Tu sais, t'es aussi bon, ton équipe est aussi bonne que tes meilleurs joueurs. Puis là, on voit les meilleurs joueurs du Canadien. Le défenseur numéro un puis le centre numéro un qui en prennent plus puis qui assument un leadership en l'absence des vétérans et c'est ce qui fait que l'équipe présentement fonctionne bien.
Moi, j'aimerais ajouter juste quelque chose, Alexandre, sur ce que tu dis, parlant de Nick Suzuki. Hier, dans le point de presse après le match, il a dit quelque chose qui a retenu mon attention. Il dit, l'an passé, j'étais protégé. J'étais protégé parce que j'affrontais pas les meilleurs trios. Cette année, j'ai dû, pendant toute la saison, dans un calendrier condensé, ça c'est moi qui l'ajoute, mais j'ai dû affronter les meilleurs trios. Donc, t'affrontes les meilleurs joueurs de la Ligue nationale, c'est une question d'adaptation. Et je pense que Suzuki s'en sort très, très bien. Tu l'as mentionné, 10 points à ses 6 derniers matchs. Ça va bien pour lui, on le sent en contrôle. Il a marqué, la confiance est de retour. Que dire de sa présence avec Caulfield dans le point de presse après? Caulfield assis à une table, lui au podium, il dit, écoute, Cole est trop petit, il pouvait pas venir au podium, c'est pour ça qu'il est assis à la table. T'sais, on sent qu'il y a une bonne camaraderie, puis ça, c'est important. Autre point que j'aimerais ajouter. Là, on a fait état de Caulfield, on a fait état t'as parlé, entre autres, de Jeff Petrie. Moi, je veux ajouter Joel Armia dans l'équation, parce que Armia joue du hockey inspiré et inspirant. Pourquoi? Parce qu'il est capable de garder la rondelle en territoire adverse. Il a un bon lancer, il a un bon gabarit.
Toujours été sa force.
Exact, mais là, il le fait de façon constante, match après match.
Hier,
au courant des derniers matchs, on l'a vu extrêmement impliqué. Puis moi, je vous le dis, je ramène sur la table, là, il va être joueur autonome sans compensation à la fin de la saison. Et tu sais, je peux pas arriver du jour au lendemain l'écarter et dire non, t'as pas besoin de ce gars-là.
Moi, je pense qu'il revient pas. Là.
T'as besoin d'un gabarit comme ça. T'as besoin d'avoir cette force-là qui est capable de générer de l'attaque. Puis moi, je crois que les Canadiens l'aiment beaucoup. Fait que donc, avant de commencer à dire qu'on discarte Joel Armia, moi, je vous dirais, faudra attendre voir.
Je pense que ça va dépendre du salaire. Écoutez, faudrait pas passer sous silence non plus le but de Dano, parce que si Dano marque pas en fin de troisième, il n'y a pas de prolongation.
Je suis content pour lui, moi.
Toi, très content.
Ah, mon
Dieu. Tu sais, je veux dire, on l'apprécie tellement. C'est vraiment une bonne personne. Mais je vais vous dire une chose. Jack Campbell, hier, m'a fait sacrer une couple de fois. Mm. Tu sais, tout croche en tabarouette, mais il n'y a rien qui rentre. J'ai de la difficulté à mettre mon doigt un peu sur ce gars-là. Alex, tu peux peut-être enchérir là-dessus, mais hier, là, j'ai pensé, j'ai dit, ils vont nous voler ces deux points-là. Puis c'était Jack Campbell, là, tout croche, va trouver le moyen de nous battre.
Tout croche, je veux dire que des fois, Carey Price aussi, qui est un petit peu
tout croche quand il gagne. Oui.
Mais tu sais, moi, je suis vraiment impressionné par Jack Campbell, de les matchs qu'on a vus récemment. Puis tu sais, je pense que c'est Jérémy que tu disais vendredi, Jérémy... Rainville, tu sais, je suis pas trop sûr devant les buts, les mains pour les... Honnêtement, je trouve que c'était impressionnant. Là. La démonstration qu'il nous a faite hier était convaincante. Oui, tu sais, il garde pas les buts de façon classique, mais justement, des fois, un gardien qui est pas classique aussi, c'est plus difficile à reconnaître ses faiblesses parce que tu sais pas exactement comment il va réagir. Puis il faut admettre, écoute, il y a des solides réflexes présentement. Puis c'est un gardien qui a pas eu, c'est un ancien espoir numéro un quand même,
c'est
qui
vrai.
A pas eu nécessairement toutes les chances nécessaires dans la Ligue nationale, mais qui est quand même assez relativement jeune pour un gardien et qui là a sa chance et qui clairement est en train d'en profiter. Là. Moi,
écoute,
j'ai été très impressionné de ce que j'ai vu hier.
L'arrêt sur Anderson, tu sais, où il reçoit le puck tombe à ses pieds, il sait pas où est le puck. Mm-hmm. Jackson est là au bout de la palette. Là, il fait un petit pas de danse, puis avec la jambe en arrière, il fait l'arrêt. J'étais comme, c'est quoi cette affaire-là?
Là, attends, Alexandre, je sais que je t'ai parlé de ça et je te reconfirme. Je te reconfirme que le Canadien va passer au travers de ce club-là. Je te reconfirme que Campbell va perdre sa place à Frédéric Anderson si lui revient dans l'alignement. Et je te reconfirme que ce gars-là est spectaculaire. Par contre, t'as raison. Le 2 contre 1, un moment donné, avec l'arrêt du biscuit, c'était spectaculaire. Mais d'une mauvaise couverture sur le bord de son poteau, ça arrive à tout le monde, vous allez me dire. Mais c'est quand même Phil Dano, là. C'était pas, c'était pas DeBrincat, là. C'était pas Patrick Kane qui était là, là. Fait que donc, pour moi, le point d'interrogation demeure immense. Voyons comment ça va se passer, mais disons que ça met la table. Peut-être une bonne série entre le Canadien et les Leafs.
Hey, on est juste rendu au paragraphe numéro 2 de mes feuilles, en tout cas. ça va être long aujourd'hui.
Une petite note sur Campbell, si vous me permettez. Ouais. J'asais hier soir avec un journaliste qui couvre les Maple Leafs, David Alter, du Hockey News. Puis, ce qu'il me disait, parce qu'évidemment, comme on ne suit pas Toronto de si près que ça, il y a des trucs, des fois, c'est un peu plus de loin pour nous, que Campbell, son problème, c'est vraiment sa confiance. Que c'est un gardien qui, malgré les statistiques exceptionnelles qu'il a eues, puis sa grande séquence, il a battu le record pour le nombre de victoires consécutives en début de saison, mais à la minute où ils ont acquis David Riddick à la date limite des transactions, il a commencé à perdre quelques matchs, il s'est rattrapé depuis, mais on ne sait pas si c'est la cause ou la conséquence un peu de la carrière en dentiste qu'il a eu et de son éclosion tardive, mais que c'est un gardien qui, malgré que ça se passe bien cette saison, est un petit peu fragile. Et s'il y avait un Canadien Ligue, ce serait extraordinaire parce qu'il y aurait du drame de gardien de but des deux côtés. Et ça, c'est que je vois pas comment on pourrait espérer mieux pour un premier tour des séries. Mais oui, je pense qu'évidemment, on va donner le filet à Campbell, mais c'est pas nécessairement le gardien pour toutes les séries. Là. Je pense qu'il est sujet à si jamais ça va pas très bien, on sera pas extrêmement patient avec lui.
J'ai hâte qu'on fasse le podcast. On va demander est-ce qu'on met Price ou Allen au match numéro 1 des séries? Ça va être le fun!
Mais on va pas de discussion là.
On commence pas aujourd'hui. Là.
C'est même pas. Je sais même pas de quoi on parle. Mais non, ça n'a pas de bon sens. Okay, il n'y a aucune question.
On commence à chicaner encore.
Hey, te souviens-tu, il y avait une année, Price avait été bon, là? C'est quelle année, là?
Tyler Toffoli, hier, a marqué son 28e but. C'est la première fois depuis 1980 que le Canadien a un marqueur dans le top 5 de la Ligue nationale après 50 matchs. C'était Guy Lafleur. J'étais en maternelle cette année-là, avec ma professeure Louise, puis je faisais des Legos avec ma prof, puis mes collègues de classe. Hey, non, mais c'est-tu débile de penser que ça fait 41 ans qu'on n'a pas eu un marqueur dans le top 5? On parle du Canadien de Montréal, là. Les Yankees du hockey, là. Les Cowboys de la Ligue nationale. 41 ans.
Est-ce qu'on peut.
C'est malade.
Est-ce qu'on peut dire bravo à Marc Bergevin? Bravo, Marc Bergevin, d'avoir ramené ce gars-là. Écoute, au salaire qui est payé, tu l'as encore cette saison plus trois autres années, là. C'est quoi son salaire? 4.3?
C'est une aubaine.
4.385, je pense. À moins que je me trompe, là.
On va aller vérifier.
Mais encore pour trois autres années après ça. Après cette année, il a encore trois ans. Est-ce qu'on peut, une fois, dire bravo, Marc Bergevin?
C'est sûr.
C'est toute une acquisition? Sincèrement.
Mais bravo, Tyler Toffoli.
Je comprends pas comment les...
4,2.
4 points... Hey, c'est encore mieux. Pourquoi les Canucks de Vancouver n'ont pas gardé ce gars-là?
Mais je pense qu'ils voulaient, puis je pense que Tyler, il voulait voir ailleurs.
Ben voyons donc. Quel marqueur
c'est incroyable. C'est incroyable.
C'est une saison un peu difficile pour avoir des... Pas un peu, beaucoup, très difficile pour avoir des histoires plus en profondeur sur les joueurs, mais j'ai très hâte qu'on puisse faire la lumière sur le processus qui a mené à la signature de ce contrat-là. Parce que, tu sais, une des raisons qui était évoquée, c'est les jeunes centres du Canadien. Tu sais, à Vancouver, là, les deux centres, c'est Bo Horvat et Elias Pettersson. J'aime bien Suzuki et Kotkaniemi, là. Mais, tu sais, je veux dire, si les Canucks avaient voulu le garder, il y avait des arguments. Et qu'ils soient rendus, je pense que c'est la troisième journée du marché des joueurs autonomes à signer un contrat aussi frugal que ça, ou aussi frugal que peut-être 4,25 millions, là, on s'entend. Mais il y a quelque chose derrière ça. Peut-être que carrément, Toffoli était quelqu'un qui se contente de relativement peu puis était juste effectivement super enthousiaste de signer à Montréal. Mais j'ai très hâte d'entendre l'histoire parce que vraiment, c'est une des histoires très positives cette année dans la LNH.
Juste savoir une chose, Simon-Olivier, frugal, ça veut dire quoi?
C'est économe.
Ça veut dire...
Économe?
On va pas dire... Ouais. Économe ou, disons, humble.
Humble, OK, parfait. J'ai pris ça en note. Je vais utiliser ça un moment donné. Je trouve le mot très, très beau.
Mais Alexandre, on va revenir là à la fameuse, tu sais, le fameux débat sur le joueur le plus utile à son équipe, parce qu'on l'a souvent, par exemple, dans le monde du baseball. Mais quand on regarde le Canadien de Montréal, le fait que au moment où on se parle, son quatrième dans la division et tout ça, 28 buts, si on enlevait les 28 buts de Tyler Toffoli, on s'entend que le Canadien n'est pas dans le portrait des séries, ce qui représente exactement ce que veut dire l'expression « joueur le plus utile à son équipe ». Parce que là, plusieurs disent « ouais, mais Austin Matthews, ouais, mais Connor McDavid », mais il y a quand même d'autres joueurs de très haut talent dans ces équipes-là. T'enlèves Toffoli aux Canadiens, ils sont morts, ils sont plus là.
Regarde, tu sais, ben, tu sais, Toffoli est le meilleur joueur du Canadien cette année, oui.
Ça, c'est sûr.
Est-ce qu'il va gagner, genre, la Coupe Molson, je sais pas quoi, oui. Mais tu sais, Jérémy, au niveau de la Ligue nationale, on l'oublie, là, mais tu sais, ce que fait Connor McDavid cette année, c'est exceptionnel. Okay? Ouais. Il est présentement en train d'avoir la meilleure saison d'un joueur d'hockey dans le 21e siècle. Tu sais, il y a 1,82 points par match présentement, là. C'est, je veux dire, Sidney Crosby a même jamais approché ça, là. La meilleure saison de Crosby, c'est 1,68. Il a eu le mieux que ça en ait approché en 2001, là, quand il est revenu de son cancer. Mais c'est exceptionnel. Je veux dire, c'est 30% en haut des top élites de toutes les autres années, de tous les joueurs de la Ligue nationale.
Ça me confirme.
Je vois pas comment ça peut être quelqu'un d'autre que McDavid, honnêtement.
Ça me confirme que c'est pour ça qu'on devrait passer au même système que la Ligue canadienne de football. Most outstanding player.
Ben
most
attends,
outstanding.
C'est à son équipe là.
McDavid.
Enlève McDavid des Oilers, ils font pas les séries là.
Ben là, je le sais pas là. On le
ben
sait
non,
pas.
Même pas. Écoute, Jérémy, écoute, les Oilers d'Edmonton ont marqué cette saison 163 buts, McDavid a 91 points.
Écoute, il s'en va vers 100 points dans une saison écourtée là.
Il est impliqué dans 55% des buts de son équipe, puis Draisaitl a 73 points. Fait que j'ai pas le prorata sous les yeux, je veux dire.
Non, c'est plus que 50% des buts marqués où il a touché à la rondelle.
Est-ce que je peux cracher dans la soupe? Je suis désolé de faire ça, là, mais sincèrement, là, Mario Lemieux, Sidney Crosby affrontaient l'ensemble des clubs de la Ligue nationale. Tandis que McDavid affronte que la Division Nord avec des clubs qui se sont cherchés pendant toute l'année, entre autres les Sénateurs d'Ottawa, les Canucks de Vancouver, les Flames de Calgary puis les Canadiens de Montréal.
Mais je pense pas que tu peux enlever ça à un joueur.
Non, il a fait des points. Ben non, t'as raison. Mais sincèrement, c'est pas dans une saison normale. C'est pas dans un. T'as raison également, vous avez raison.
Il y a pas le même gars.
Non.
Je comprends ce que tu dis, Jérémy, mais en même temps.
Je trouve que ça enlève du prestige. Excuse-moi. Vas-y, excuse.
Ben, c'est parce qu'en fait, c'est qu'en tant qu'à ça, on va enlever le prestige de toutes les performances de la Ligue. Tu sais, la division S, là, qui était supposée être la division de la mort cette saison, les équipes se sont essuyées ses pieds, ses sabres sur les Devils, sur les Flyers.
Ouais.
Sinon, tu sais, les trois équipes de la Californie, c'est des saisons, disons, difficiles. Columbus, c'est une saison catastrophique. Détroit, tu sais, dans chaque division, il y a des équipes extrêmement faibles. Et oui, effectivement, il s'est marqué plus de buts dans la division canadienne. Mais au prorata, il s'est pas marqué assez de buts pour justifier cette saison-là de Connor McDavid. Là, il est très, très, très en haut de la marge d'erreur.
Mais moi, c'est pour ça que je suis content qu'on ait le trophée Maurice Richard pour le meilleur marqueur. Mais je pense qu'on devrait aussi distinguer le joueur, le most outstanding player, le meilleur joueur de la ligue, et le joueur le plus utile à son équipe.
OK, je comprends.
En tout cas, peu importe, là, on réglera pas ce débat-là aujourd'hui, mais je pense qu'il devrait être considéré.
En fait, on l'a réglé, puis c'est non.
Bon, OK, je me la ferme. C'est bon, on change de sujet. Là, la question, c'est qu'il y a plusieurs joueurs qui sont à l'extérieur de l'alignement, qui sont des joueurs réguliers, qui ont des salaires importants, qui n'ont peut-être pas connu d'excellentes saisons cette année, mais qui éventuellement vont vouloir revenir sur la patinoire. Et écoutez, je me promène un peu sur les médias sociaux. Il y en a plusieurs qui disent, écoute, là, ceux qui font gagner l'équipe présentement, faut qu'ils restent sur la patinoire. Et ça, c'est attaché un peu à mon sujet. Le prochain sujet, c'est est-ce qu'on aura des problématiques avec le plafond salarial, avec les 5 ou 6 derniers matchs qui restent, ou est-ce que tout ça est réglé, étant donné qu'il y a des blessés qui ne reviendront pas dans les prochains jours? Et est-ce que Dominique Ducharme va avoir la liberté de faire jouer qui il veut jouer? Il veut faire jouer d'ici la fin de la saison? Est-ce que quelqu'un a réponse à ma question?
Vas-y, allez-y.
Ben en fait, je vais répondre juste à la question sur le fond. Il y aura pas de problème de plafond salarial puisque avec l'absence de Jonathan Drouin à long terme, ça a un peu entre guillemets réglé le problème salarial du Canadien.
Excellent.
C'est pas une belle manière de l'exprimer parce que c'est pas des bonnes nouvelles, mais néanmoins il y a plus de problème de plafond.
Okay.
Cependant, le problème c'est le nombre de rappels. C'est-à-dire que le Canadien a épuisé tous ses rappels dits réguliers ou ordinaires. des mineurs. Maintenant, tous les joueurs, les trois joueurs d'attaque qui sont présents en extra, en formation, qui sont Frolic, Evans et Caulfield, sont des rappels d'urgence. C'est-à-dire que dès qu'ils sont rappelés parce que s'ils sont pas là, le Canadien n'a pas assez d'attaquants.
OK.
Donc, au premier blessé qui revient, disons que Tatar revient cette semaine.
OK.
C'est logiquement Frolic qui sortirait de l'alignement. Mais au deuxième aussi, si Paul Byron, je pense pas que ça arrive bientôt, mais si Paul Byron revenait rapidement, ben c'est Evans ou Caulfield qui y passerait, puis c'est pas une question salariale, c'est une question que c'est comme ça. Mais cela dit, il reste 5 matchs à la saison, puis après ça, dans les séries, ces règles-là s'en vont. Fait que ce serait, je pense que ça pourrait donner des choix difficiles et un peu plates, surtout que y a des bons jeunes joueurs qui vont bien là-dedans. Mais il n'y a rien à long terme là-dedans.
OK. Bon, dans la liste des gars qui sont pas là présentement, là, on peut-tu y aller vite? Qui rentre sans se poser la question? C'est sûr, il faut y faire une place et rentre tout de suite. Et qui sont ceux que... pas sûr.
Gallagher, c'est sûr.
Oui.
Tatar, je pense, c'est sûr. Weber, c'est sûr. Price, c'est sûr.
Oui.
Oups. Fait que Byron et Drouin, on attend. Pourquoi Oups?
OK. Non, parce que j'ai juste... C'est ça.
Qu'est-ce que tu veux dire?
Alexandre, qu'est-ce que ça dit, cette liste-là?
Ben moi, je suis d'accord avec ce que Jérémy vient de dire, essentiellement. T'sais, non, je pense pas que Barry... Ben, tu sais, on regarde juste présentement, la plupart de ces gars-là s'entraînent même pas là, pour le moment.
Ouais.
On n'a aucune idée, même si Gallagher va revenir au début des séries. C'est pas clair pour moi. C'est pas clair non plus que Price va revenir pour le début des séries. Je pense Weber, oui. Je pense pas que Drouin va être là. Byron, j'en ai aucune idée. T'sais. Donc, je pense pas que la question à super court terme là, va se poser. Là.
OK. OK. C'est mon avis.
Paul Byron, faut savoir, hier, moi, j'étais à l'entraînement hier, il a pas patiné du tout.
OK.
Contrairement à Tatar, qui avait patiné, il a pris quelques lancers. Moi, je pense que Tatar est plutôt proche d'un retour au jeu. J'ai vu Shea Weber patiner avec Brendan Gallagher hier sans rondelle, avec juste des bâtons qui étaient même pas un bâton de son côté. C'est pas clair pour Weber, mais cela dit, Weber, on s'entend, il peut passer d'une civière à jouer, là, fait qu'on peut pas vraiment se prononcer sur son cas. Dans le cas de Byron, c'est embêtant parce que c'est une confrontation très précise, c'est une bonne illustration de la confrontation qu'il y a entre la perception des partisans, des observateurs en général, même des journalistes, et celle des entraîneurs. Byron, on a tous vu la même chose. Un joueur payé trop cher pour ce qu'il apporte. C'est quand même 14 points en 44 matchs. Pour un joueur de quatrième trio, c'est pas si mal, mais tout le monde pense toujours à son salaire, mais c'est un joueur, il porte le A sur son chandail, extrêmement apprécié de ses coéquipiers et de ses entraîneurs. On est tous prêts à dire, ben oui, c'est évident que Paul Byron, on le ramène pas dans la formation. C'est pas si évident que ça qu'il va pas revenir dans la formation néanmoins. Fait que, peut-être qu'on va le préférer à Evans. En fait, je serais pas du tout surpris qu'on préfère Byron à Evans au début des séries. Et si jamais ça se corse, on fera des changements. Mais Byron, faut pas penser qu'il est plus dans le portrait pour l'instant.
Mais il faut se questionner aussi. Je sais pas si vous avez remarqué, dans le match d'hier, Kéké a été dans le festival de, je pense, la bouteille d'eau sur le banc. Là.
Oui.
Il a pas été beaucoup utilisé. On sent que Dominique Ducharme, il en demande davantage. On veut qu'il soit plus solide avec quand il est en possession de la rondelle, qu'il arrête de créer des revirements. Hier, en avantage numérique, j'ai trouvé que c'était lent de prendre des lancers. Ça donnait le temps à Campbell de se positionner. Mais tu sais, lui, là, il est sur la sellette présentement. Il est jeune, mais il est sur la sellette. Le gars, il a dit, après le match, Dominique Ducharme m'a dit, non, il est pas blessé. Il était là parce qu'il méritait d'être là. Fait que donc, est-ce que ça aussi, ça serait à considérer au courant des prochains matchs, puis le début des séries, là, je pense qu'on peut arranger les choses. Mais au courant des prochains matchs, on va se questionner assurément sur Jesperi Kotkaniemi.
On va voir ça. Écoute,
bon, mais je vois que ça fait réagir tout le monde, je suis content.
Non, mais je suis d'accord avec toi. Écoute, plus un, j'ai beaucoup parlé de Kotkaniemi en mal dans mes chroniques, je me le fais souvent reprocher, mais je dis, ça va pas, là. Ça va vraiment pas. Il est rendu à genre 50 minutes de suite en avantage numérique, 100 points, puis vous savez, il a pas marqué un but depuis le 1er avril. T'sais, il a beau bien jouer sans la rondelle, puis tant mieux, là, parce que les dernières, il jouait mal sans la rondelle. Mais je disais, écoute, c'est un troisième show au total. À un moment donné, il va falloir qu'il y ait des points qui rentrent. Là. Il y a des responsabilités de troisième centre présentement, mais un troisième centre, de temps en temps, ça marque. Là,
moi, je pense que la décision la plus difficile, ça va être celle de Price.
On est rendu là?
Non, mais moi, je regarde la liste, puis c'est pour ça que j'ai peut-être pas réagi, parce que je pense à ça. Là. Non, mais tu t'imagines-tu, là, Price, il joue pas. Il revient dans les séries, là. Là, il laisse rentrer 2-3 zones, puis là, comme dirait Ron, puis là, tu te fais sortir au premier tour parce que ton goaler est pas il va se faire arracher la tête par les partisans. Ben le oui, monde mais... va être comme, on avait un goaler qui faisait la job, c'est quoi la maudite
mais ça
affaire?
Son... Écoute, Jérémy, là, on va se parler pour vrai.
On va sacrifier la saison.
On va se parler pour vrai. Ben,
c'est malade, okay.
Il reste quoi, 5 matchs à saison?
Oui.
Bon, il sera pas là, Price. Il sera pas là. Jake Allen va revenir. Price, il va se reposer. Il va commencer à s'entraîner. Puis au premier match des séries de fin de saison, eh ben, dans le filet, ça va être Carey Price. C'est sûr et certain. La seule chose que je peux te dire, qu'il performe ou non, après, c'est sa responsabilité à lui. Mais une chose, c'est qu'il y a un bon gardien de but qui est là si jamais ça fonctionne pas pour lui. Et lui, il devra vivre avec les conséquences de sa performance. Tu sais, si tu perds un match, tu perds pas la série, là. Mais si ton gardien de but il écroche, t'en as un bon deuxième qui est là, qui est capable de faire le travail. Mais tu ne peux pas ne pas partir avec Carey Price.
Mais je pense que ce serait plus logique puis accepté de tout le monde de dire il a pas été là depuis un mois, il a pas gaulé, on va y aller avec le gars qui est en forme, qui est en shape.
Okay, je vais
parce
entendre.
Que tu le mets là pour une game là, puis il se fait ramasser là.
Okay, je vais entendre les gars là-dessus.
Ah, parouette.
Ben regarde, moi je pense moi c'est une question de momentum un petit peu puis de confiance en ton gardien. Tu sais, je vais prendre l'analogie avec le baseball, mais t'sais, si t'as un top lanceur qui revient d'une blessure mais qui est prêt pour le 7e match de la Série mondiale, il y a des chances que tu l'envoies. T'sais. Je dis, si les gars se sentent en confiance avec Carey Price, peu importe les performances récentes d'Allen, je pense que le Canadien va y aller avec Carey Price.
OK. Bon, on va changer de sujet. On va passer au prochain. Parce que la réalité, c'est qu'on ne sait pas contre qui le Canadien va jouer.
Ouais.
Au moment où on se parle, puis j'aurais jamais cru dire ça il y a deux semaines, mais le Canadien et les Jets sont à égalité avec 57 points. Pourquoi? Parce que les Jets viennent d'en perdre 7 en ligne. Ça va pas bien du tout pour les Jets.
En temps régulier, en 60 minutes, il n'y a pas un point là-dedans. Là. C'est 7
en plus.
Plate. Là.
En plus. Là, le chiffre magique du Canadien pour se classer en série, c'est 5. Donc, on se dit que c'est pratiquement réglé. Donc, une accumulation de 5 points, c'est-à-dire soit des points récoltés par le Canadien ou perdus par les Canucks, et le Canadien est classé. Donc, c'est pratiquement fait. Est-ce que le CH devrait essayer de choisir son adversaire du premier tour? Essayer d'éviter peut-être les Leafs? Ou est-ce qu'on gère notre personnel pour s'assurer de rentrer en série avec les gars qu'on veut avoir là, dans une bonne condition et tout ça? Moi, je suis vraiment déchiré par rapport à ça. Parce que je pense qu'il faut y aller intelligemment. Mais d'un autre côté, si tu es capable d'éviter les Leafs au premier tour, je pense que faut que tu essayes de le faire.
Je pense pas, moi, sincèrement, qu'on choisit quoi que ce soit. Puis Dominique Ducharme m'en a parlé. Il disait, tu sais, c'est Jonathan Bernier du Journal de Montréal qui arrive puis il demande, tu sais, quand vous êtes dans le vestiaire, vous dites, vous pouvez rejoindre les Jets, puis ouais. C'était un bon objectif. Il dit, tu sais, nous, on n'est pas dans le vestiaire. Il dit, ouais, les gars, faudrait gagner ce soir. T'sais, gagner, c'est vague, puis ça veut rien dire. Nous, ce qu'on a, c'est une liste d'objectifs match après match, puis on doit s'assurer de remplir, de cocher les cases des objectifs. Et après, habituellement, le résultat est positif. Fait que donc, je pense pas qu'on tente à regarder à moyen et long terme, à savoir si on gagne tant de matchs, on va affronter les Oilers d'Edmonton au lieu d'affronter les Leafs de Toronto. Je pense juste que n'importe qui, n'importe quand, si on joue bien, on est capable de compétitionner. Je pense pas qu'on peut... Tu sais, peut-être que les gars, en prenant un café le soir, ben tard, disent, hey, ce serait le fun si jamais on pogne les Oilers. Tu sais, si on arrive à contrer McDavid, ce sera peut-être plus facile. Mm. Parfait. Mais je pense que collectivement, l'objectif, c'est simplement gagner des matchs, puis on verra qui sera l'adversaire à l'ouverture des séries de fin de saison.
Alexandre, là-dessus?
Ben non, mais tu peux pas perdre volontairement. Tu sais, pour choisir ton adversaire.
Ça, c'est sûr.
Ça arrivera pas. Il n'y a pas un athlète professionnel.
Non, ça c'est ça. Pas.
Sauf peut-être, je pense que c'est déjà arrivé au soccer italien. Mais.
Tu fais mal à philo, là.
Non. Je suis capable de reconnaître. Il y a absolument raison.
C'est arrivé pour vrai, en fait. Ben oui, il y a eu des clips qui ont changé du genre. Non, je pense pas. Honnêtement, tu peux pas te permettre de faire ça. Ne serait-ce que si ton plan fonctionne pas, imagine le manque de respect que ça envoie à l'autre.
Non, mais.
Ou même si ton plan fonctionne, imagine le manque de respect que ça envoie à l'équipe que tu vas affronter. Tu peux pas te permettre.
Non, mais même au niveau mental.
J'ai peut-être
mal expliqué ma question, mais c'est, tu sais, est-ce que l'important au moment où on se parle, c'est d'essayer de grimper d'un autre rang ou c'est d'essayer de placer tes pions pour les séries, tu sais?
C'est ben, ça. Moi, je pense que l'important, c'est de rentrer en série avec une séquence de victoires. C'est sûr que ça nuit pas. T'sais, si le moral est bon, tu as de la confiance en toi, tu sais, c'est sûr que ça nuira pas.
Simon Olivier là-dessus?
Ben, en fait, c'est exactement ça. Il est souvent question de, pardonnez-moi l'anglicisme, de piquer au bon moment dans le domaine sportif. Le Canadien est exactement là-dedans. Il reste 5 matchs. Je pense pas que le Canadien remporte les 5, mais on veut en remporter quelques-uns et surtout de jouer d'une manière qui donne confiance à l'équipe pour rentrer en série de la bonne manière. Et ce qui m'amuse un peu dans ce je sais pas à quel point c'est un débat, mais à savoir est-ce que ce sera les Leafs ou les Oilers, il y a une espèce de croyance que je saisis pas beaucoup sur le fait que les Oilers, ce serait facile. Quand on en a parlé il y a quelques minutes, quand même McDavid connaît la meilleure saison d'un joueur d'attaque en plus de 20 ans, je comprends pas pourquoi tout à coup, dans un 4-7, même si le Canadien a connu du succès contre les Oilers cette année, c'est comme si c'était réglé, comme si le Canadien gagnait ça en 4, puis que c'était une partie de plaisir, puis les Leafs au deuxième tour. Il y a aucun scénario idéal, là. Peut-être si le Canadien avait pu avoir les Canucks au premier tour, effectivement, j'aurais peut-être mieux un
même, là,
deux,
là, mais même
sinon,
là, même là, même là,
puis encore.
Même les sénateurs, encore, même
mais...
là.
Non, mais je pense que du côté d'Ottawa,
pas les sénateurs.
T'sais, t'as pas Tavares en plus, puis Marner en plus, puis t'sais, les Leafs, puis là, ils viennent d'ajouter Foligno en plus. Puis,
non, mais c'est... Foligno s'est blessé dans le match d'hier.
C'est
on
vrai,
voit la gravité
raison.
De la blessure.
T'as raison.
Mais McDavid va jouer 30 minutes en série. Fait que je veux dire, c'est tu là dans les pattes pendant tout le match, puis il y a pas juste Philippe Danault qui jouerait contre lui. La tâche, c'est partagée. Alors, c'est pas. Il n'y en aura pas de facile pour reprendre un.
Mais Simon-Olivier, moi, je veux dire, je trouve que les Oilers sont plus unidimensionnels avec McDavid et Draisaitl que les Leafs de Toronto. Malgré que les Leafs sont. C'est comme un gros lion qui dort. Et quand tu le provoques, là, ça rugit puis c'est dangereux. Mais souvent, il est paresseux. Ça prend du temps avant qu'il choque, tu sais. Fait que si t'arrives à contenir le lion, c'est pas si pire. Dans le cas de McDavid puis Draisaitl, tu le sais, c'est eux. Eux, si t'es capable de cibler leur travail, t'es capable de freiner leur capacité à prendre la vitesse en zone neutre, t'es pas mal en business si tu prends pas de pénalité. Mais dans les deux cas, si tu prends des pénalités et contre les Oilers et contre les Leafs, t'es fait.
Ouais, t'es dans le trou.
T'es fait, là.
Bon, les gars, aujourd'hui, ce que j'ai fait, c'est que j'ai contacté notre collègue Louis Lacroix, qui qui représente Cogeco lors des points de presse. Avec le premier ministre François Legault et aussi le docteur Horacio Arruda. J'ai demandé, j'ai dit, écoute, y aurait-tu moyen de poser la question à savoir est-ce qu'on pourrait avoir des partisans dans les estrades pour le début des séries éliminatoires? Et voici la réponse.
Ben, d'abord, avant de passer la parole au docteur Arruda, je veux vous confirmer que oui, ça fait plusieurs fois que j'en parle avec le docteur Arruda. Imaginez-vous hier soir si ça avait été plein au Centre Bell pour le but de Cole Caulfield, ça aurait été effrayant. Mais je suis certain qu'on a entendu ça dans les chaumières, là, chacun chez soi. Mais c'est une très bonne question que j'ai posée plusieurs fois au docteur Arruda, puis j'attends la réponse.
Il y a effectivement des discussions, pas des discussions, mais des réflexions en lien avec l'augmentation de la couverture vaccinale, puis de l'avancement, puis le contrôle des éclosions, là, qui permettrait de réouvrir effectivement un auditoire. Il serait probablement pas au complet au début. Il y aurait moins de gens à l'intérieur avec pour respecter certains principes de distanciation, mais c'est quelque chose qu'on n'a pas du tout éliminé, là. Et certains pourront aller vibrer sur place plutôt que de vibrer devant leur télévision.
On peut avoir juste un ordre de
ben écoutez, de ça, temps? Peut comment, ça peut comment... de date?
Ben oui, dans date, l'échelonné dans le temps.
Je ne m'avancerai pas pour des dates. Là. Je veux juste... Il faut que j'ai encore des discussions à avoir là, par rapport à l'épidémie. Mais d'où l'importance que tous ces plaisirs-là, qui peuvent être celui-là ou d'autres... soit réalisable à mesure que notre couverture vaccinale va augmenter. Vous savez, là, le chiffre, là...
Bon, ben voilà.
Alors voilà, c'était Bernard Dréville, notre collègue. Moi, ce que je retiens, c'est que François Legault dit « C'est une très bonne question. »
Ben
voilà.
Oui, félicitations, Philo.
Bon,
bonne
alors,
question.
Alors, il y a de l'espoir, messieurs, il y a de l'espoir qu'on puisse avoir des partisans dans les estrades pour les séries éliminatoires. C'est dans quelques semaines seulement. Moi, je pense que ça fait... Je trouve que ça fait du bien, parce que je vais vous le dire, je regarde ce qui se passe ailleurs dans le monde, puis je suis jaloux. Je suis jaloux, j'ai hâte de revoir des gens dans les estrades ici aussi. Et je pense que si les Canadiens, par exemple, se retrouvaient contre les Maple Leafs et qu'il y avait des partisans ici au Québec dans les estrades, puis il n'y en avait pas à Toronto parce qu'ils sont dans une situation un peu différente, ça pourrait être un avantage.
Ah, définitivement, mais sais-tu quoi? Moi, je vais demeurer très, très patient avec ça parce qu'il y a eu beaucoup de bonnes nouvelles qui s'est avérées la semaine d'après à pas être une bonne nouvelle. Puis, fait que donc, je veux pas prendre rien pour acquis. Je sais que Alexandre... T'as eu de l'information également là-dessus. Toi, de ton côté, ça disait quoi? Ça disait, on était favorable, on pensait à ça?
Ouais, ben, mais il y a une volonté à Québec là, de rouvrir les stades là, du côté du gouvernement. Je ne sais pas du côté de la santé publique, mais du gouvernement, clairement. Moi, ce que j'entends, par contre, c'est plus tard cet été. Là. C'était pas quelque chose d'immédiat. T'sais, je pense que dans les stades à l'extérieur, quelque part après, trois semaines après que 70-75% des gens étaient vaccinés, c'est envisageable de pouvoir ouvrir les stades pour les Alouettes ou pour le CF Montréal avec des règles. C'est par exemple avoir des masques en tout temps dans dans le stade. Les spectateurs peut-être à un mètre d'écart chacun à l'extérieur. T'sais, c'est des paramètres là qui étaient dans les discussions il y a deux semaines, je dirais à peu près. T'sais, moi, j'ai pas rien entendu spécifiquement par contre pour les sites intérieurs. Je serais vraiment surpris que ça soit autorisé avant qu'il y ait vraiment une forte couverture vaccinale dans la région de Montréal. Puis les chiffres dans la presse en fin de semaine, là, sauf erreur, c'était 30 % seulement des gens qui avaient été vaccinés sur l'île de Montréal, alors qu'il y a d'autres régions, là, c'est beaucoup plus élevé, là, presque à 40 %. Donc, je retiens un peu mon souffle, puis oublions pas que ça prend 3 semaines avant qu'il y ait une certaine forme, un début d'immunité. Écoutez, peut-être que si le Canadien sera en demi-finale ou en finale, là, on aura des discussions. Encore là, ils vont avoir la fermeture des frontières, tout ça va être compliqué. mais est-ce que, par exemple, Montréal pourrait accueillir une bulle des séries avec des spectateurs, ça, avec un nombre limité de spectateurs, en bas de 2000, par exemple? Ah, c'est peut-être une possibilité dans les prochaines semaines.
Bon, Simon Olivier, veux-tu ajouter quelque chose là-dessus?
Ouais, moi, je suis un peu agacé par l'enthousiasme du premier ministre. Il y a quelque chose qui sonne, ben, je dirais pas qu'il sonne faux parce que le premier ministre, visiblement, est extrêmement content d'inscrire avec le Canadien, avec Cole Caulfield, pour quiconque le suit sur les réseaux sociaux peut le constater depuis quelques jours. Tu sais, je me demande, c'est difficile d'accepter ou en tout cas, j'ai l'impression que ça pourrait être un peu socialement difficile à vendre. De peut-être pour remplir le Centre Bell, ne serait-ce que quelques milliers de personnes, alors que les restaurateurs demandent de l'aide depuis longtemps. En fait, les restaurateurs ont hâte de rouvrir. Un paquet d'industries, un paquet de vraies activités économiques québécoises, on attend que le feu vert, alors que la ville de Montréal est encore en zone rouge. Ça n'a jamais changé depuis des mois. Là, on est en zone rouge sans interruption depuis des mois. Il n'y a pas eu beaucoup de relâchement. On est encore sous le coup d'un couvre-feu. Et là, tout à coup, le premier ministre, très guilleret, de dire « Ah, j'ai hâte qu'on ait du monde au Centre Bell. » Je trouve que ça envoie un message ambigu alors qu'on martèle tous les jours « Respectez les règles, on fait attention, soyez patients, les belles journées s'en viennent, peut-être pour cet été. » Et là, tout à coup, le ruissellement de économique du sport professionnel, c'est toujours un peu contesté, c'est toujours un peu conceptuel, si on veut. Présentement, ce serait pas un moteur économique, ce serait vraiment pour faire plaisir à des spectateurs et surtout aux Canadiens qui auraient des revenus. Est-ce que c'est de ça que le Québec présentement a besoin? Je suis un peu tiède à ce sujet-là.
OK.
Une autre chose qui me tient un petit peu, tu en as parlé, mais le couvre-feu, c'est un réel enjeu, là. Je veux dire, si le couvre-feu reste à 9h30 jusqu'au 24 juin, par exemple, les gens pourront pas aller assister à la partie, là. Forcément, si la partie est en soirée, j'imagine qu'en semaine, le Canadien jouera quand même pas à 14h, là, tu sais. Pas le baseball majeur dans les séries mondiales. Fait que, tu sais, il y en a là, quand même des enjeux là, qui sont techniques là, pour qu'on en vienne à l'ouverture des stades.
Bien, juste vous dire, messieurs, aussi dans le point de presse qu'on attendait aujourd'hui de la part du ministre de la Santé, M. Dubé, c'est qu'on pourrait arriver à avoir la totalité des vaccins qu'on voulait donner peut-être un peu plus tôt que prévu. Donc, fin mai, il y a une possibilité. Encore là, j'ai l'impression que ça va... Puis on s'en sert présentement. La santé publique se sert de ça pour dire, OK, tu sais, pour faire un anane, vous voulez qu'il y ait une possibilité, parfait, mais allez vous faire vacciner et là, on sera en mesure peut-être de regarder tout ça. Il y a des points qui ont été intéressants, qui ont été soulevés par Alexandre et Simon Olivier. Vous avez parlé de la zone, vous avez parlé de la zone rouge, vous avez parlé du couvre-feu. Là, nous sommes aujourd'hui le 4 mai. Là, il reste 5 matchs au Canadien qui termine sa saison le 12. Donc, la semaine prochaine, mercredi prochain, dernier match du Canadien face aux Oilers d'Edmonton. On sait que les Canucks de Vancouver ont des matchs jusqu'au 19. Est-ce que les séries débuteront avant la fin de la saison des Canucks de Vancouver et des Flames de Calgary, point d'interrogation.
Ça va dépendre de l'importance des matchs.
Exactement, on ne sait pas. Mais il y a une possibilité que ça soit ça, comme ça peut débuter avant. Donc, ce que ça veut dire, c'est que si le Canadien débute ses séries, clairement ne débutera pas à domicile, devrait débuter à l'étranger, ça peut nous amener dans la semaine du 24 mai. Ça nous donne là, 3 semaines encore. Ou ça peut être la première semaine de juin qui soit à domicile, dépendamment où on va terminer la saison chez les Canadiens. Fait qu'il y a encore du jeu, je pense, pour la santé publique, d'aller chercher un taux de vaccination, de peut-être changer les couleurs des régions également. On a 2-3 semaines, peut-être jusqu'à 4 semaines non, avant de voir des matchs à domicile.
Faut s'entendre, ces buildings-là sont vastes. Là. C'est des grands buildings. Là, vous savez, tu mets 1000 personnes au Centre Bell, il y a moyen.
Je suis d'accord avec Simon Olivier, la perception du public est importante. C'est le fun là, du jeu et des vins.
Les gens sont habitués, ils ouvrent la TV et ils voient des stades avec du monde dedans partout, sauf ici. Là, c'est, les gens sont habitués.
Jérémy, Oui, par ailleurs, aux États-Unis, où le taux de vaccination est à peu près, dans certains États, deux fois plus élevé qu'ici.
Attends, et la moyenne aux États-Unis, c'est 30 %. C'est comme ici, là. C'est 30 %. Ils sont rendus à la même place que nous.
Il y a des États, des villes principales où c'est beaucoup plus élevé. Et puis d'autres choses, t'sais, les États-Unis comptent leur mort pas mal plus que nous autres aussi présentement. Là. Fait que, c'est des choix politiques aux États-Unis. Ils ont décidé de rouvrir, notamment pour l'économie, pour le climat social. Puis clairement, pour le climat social, ça a l'air de mieux aller présentement aux États-Unis. Tu sais, c'est un bon choix. L'ananane, ça reste une stratégie efficace hein, dans le cas de la COVID. C'est vrai que tu sais, si on est installé, par exemple, à 65 % puis qu'on essaie d'aller chercher 70, tu sais, de donner des nananes, ça peut servir. Puis on l'a bien vu, là, ça a fonctionné dans les équipes de sport où les équipes devaient atteindre 85 % pour avoir des nananes. Les derniers joueurs, à mon avis, ils se laissent convaincre. Fait que, ouais. Oui, ça peut être utile... Ça peut servir de carotte. Là.
Bon, on s'arrête le temps d'une courte pause. On va aller voir ce qui se passe ailleurs dans la Ligue nationale dans quelques instants. Voilà de retour maintenant pour le segment ailleurs dans la Ligue nationale et on va en retenir qu'un seul parce qu'on s'est trop étiré sur le Canadien, malheureusement, messieurs, aujourd'hui. Mais on peut pas faire autrement que de parler de la situation du dossier de Tom Wilson qui fait encore des siennes puisque dans un match hier entre les Capitals et les Rangers, là, pour ceux qui n'ont pas vu les images de Wilson, a vraiment rudoyé deux joueurs des Capitals, Pavel Buchnevich, entre autres, à qui, écoute, là, il a littéralement rentré la face dans la glace là, avec son bâton par en arrière. C'était vraiment dégoûtant de voir ça. Et ensuite de ça, Artemi Panarin qui l'a renversé à terre sans casque. Il savait très bien ce qu'il faisait aussi à ce moment-là. Aujourd'hui, la Ligue nationale ne lui a donné qu'une amende de 5 000 $. Il n'y a même pas de suspension. C'est assez surprenant. Merci. Petite note là, là-dedans, Alex Ovechkin a tenté un retour au jeu. Ça n'a pas fonctionné pour lui. Il ne fait qu'une seule présence sur la patinoire. Là, on aura la chance de revenir sur Ovechkin. Mais ouf, bouleversant de voir ce qui s'est passé hier avec Tom Wilson. Un récit récidiviste. Et pourtant, quand on dit dans cette ligue-là que quand t'es récidiviste, les pénalités devraient doubler, mais c'est pas le cas. Alex, je te laisse débuter là-dessus.
Ben, c'est une bouffonnerie. Sérieusement, je veux dire, c'est une honte ce qui s'est passé hier. D'abord, ce qui s'est passé dans le match, c'est une honte. Je veux dire, je trouve que la façon dont Wilson s'est comporté, c'était comme Obélix qui est un Romain aurait volé un sanglier. Là. C'était une vraie joke. C'était complètement fou. Puis je trouve que la réaction de la Ligue est absolument inappropriée. C'est une, écoute, 5 000 $, puis le 5 000, je tiens à dire, c'est pour le geste envers Buchnevich qui était extrêmement dangereux. Buchnevich était face contre la glace, il l'a frappé par en arrière. Mais je dis, Panarin aurait pu mourir sur la glace si sa tête avait frappé la glace directement. Il avait plus de casque, il est passé à 2 ou 3 cm. Lui, il est out pour l'année. Wilson va jouer demain soir comme si rien n'était. Je trouve que le département de la présumée sécurité des joueurs n'est pas un département de sécurité des joueurs. C'est un département qui protège les barbares.
Astérix, on leur fout des baffes.
Mais non, Obélix.
Oh, c'est pas juste. C'est bon, Olivier, là-dessus. juste.
Alexandre a très bien résumé ça. En fait, c'est drôle parce que dans ce podcast-ci, on en a discuté cette saison quand les joueurs du Canadien ont été la cible de coups un peu salauds et qu'on déplorait justement non seulement les amendes qui deviennent risibles. Alors, je rappelle que le 5 000 $, c'est l'amende maximale prévue par la convention collective dans cette situation-là. Et on en jasait, je pense que c'était en tout début de saison quand Joel Armia avait reçu un coup à la tête de Tyler Myers, qui n'avait pas été suspendu à la suite de ce geste-là. Et on se disait, mon Dieu, ça n'a pas de bon sens. Et on ne commencera pas à jouer sur l'échelle de la violence, là, mais c'était quand même de la petite bière comparée à ce qui s'est passé dans le cas de Tom Wilson. Et effectivement, je suis abasourdi de voir comment la Ligue gère ça. Et comme j'aime comment Alexandre a dit, le soi-disant comité de la sécurité des joueurs. Et je vois pas comment on peut se satisfaire autant du côté des joueurs que de la Ligue, de la situation actuelle. Parce que du côté de la Ligue, les propriétaires d'équipe, je veux dire, c'est leur actif là, qui est sur la glace. Là. Oui. Fait que les Rangers, leur saison est terminée, ils sont éliminés. Mais je veux dire, si Panarin se blesse à plus long terme, si Buchnevich se blesse à plus long terme, ben c'est les actifs des Rangers qui sont atteints. Oui. Fait que les propriétaires ont clairement des intérêts là-dedans. Et les joueurs eux-mêmes se retrouvent dans ce cas-là. On se demande toujours où est l'association des joueurs. Ben l'association des joueurs défend l'assaillant et la victime. Fait que j'ai l'impression que c'est une situation intenable et qu'on a toujours la même discussion Malheureusement, il n'y a rien qui change. Puis je continue de me questionner à savoir qu'est-ce que ça va prendre pour qu'effectivement, hier, est-ce qu'il va falloir aller à l'extrême? Est-ce qu'il aurait fallu que Panarin, carrément, qui s'est fait attraper par les cheveux, tombe sur la tête et tombe dans le coma pour des mois? J'ai aucune idée. Vraiment, je suis sans réponse parce que je comprends plus rien.
Plus souvent, l'association des joueurs défend l'assaillant que la victime, malheureusement. Là.
Sauf que là, la victime fait partie de l'élite de la Ligue nationale. Et de voir un matamor comme Tom Wilson qui est capable de jouer au hockey, mais qui malheureusement, par moment, il y a des bulles au cerveau, ça fait en sorte qu'il pose des gestes comme ça, attaque Panarin, qui est parmi l'élite de la Ligue nationale. Dans une franchise qui n'est pas une franchise, là, c'est pas le Canadien qui est au Québec, là, malgré qu'on aime bien, nous, là, ça ici, là, mais tu sais, au Québec ou des Jets de Winnipeg. Non, c'est les Rangers de New York. C'est la franchise dont Bettman est fier. Quand les Rangers vont bien, tout le monde est heureux à New York. Là, tu laisses aller ça. Ça nous dit que c'est pas un comité de discipline. Ça nous dit que c'est un comité de relations publiques. Et là, à un moment donné, il va falloir prendre les choses au sérieux parce que c'est les joueurs dans la Ligue nationale qui commencent à s'objecter à ça. Je sais pas, vous en avez entendu les propos après le match.
Exactement.
On parle d'un manque de respect. Tu sais, ça, c'est là.
Et c'est ça qui me surprend. C'est que après avoir entendu tous ces commentaires-là, il n'y a pas plus de répercussions. Là,
et là, ils vont se poser la question, comment ça se fait que ça finit en foire générale? Comment ça se fait qu'il y en a un qui a mangé un coup de bâton d'en face? Mais c'est à cause qu'eux ne sont pas en mesure d'appliquer une certaine logique. C'est même pas un livre de règlement, c'est la logique. Là.
Cette année, là, ça a été pire que pire. En tout cas, c'est mon opinion, là, mais ça, c'est un autre débat. On s'arrête le temps d'une dernière pause et au retour de ceci, les questions du public. Voilà de retour maintenant avec les questions du public. On va en prendre deux pour l'émission d'aujourd'hui. Étienne Allary nous demande, avec les séries qui approchent, est-ce logique de penser qu'Evans et Caulfield pourraient passer devant Keke dans la hiérarchie?
Est-ce logique? La réponse est oui. Est-ce que ça va se faire? La réponse est non. Et je pense que tout le monde est à la bonne place. Maintenant, Keke, à lui de prendre la bonne place et d'assumer pleinement son rôle, d'ajouter un peu d'intensité et de mordant à son jeu, ce qu'il fait pas présentement. Mais, tu sais, peut-être Caulfield sur l'avantage numérique pourrait prendre la place de Keke. Mais sincèrement, le Canadien va gagner si Keke est là. Le Canadien ne peut pas se permettre d'avoir un manque, peut pas avoir des joueurs qui trottinent, là.
Mais Evans peut passer sur une ligne en avant de Keke, là.
C'est pas le même genre de joueur. Je sais pas ce que, tu sais, je veux dire, c'est un bon joueur de hockey, mais il va être très bon s'il joue sur la troisième ligne. Il va être bon peut-être un match ou deux s'il joue sur les deux premiers trios, mais pas de façon constante. Okay. Donc, tout le monde doit jouer à sa chaise.
Simon Olivier là-dessus?
Ben, en fait, je passerai pas beaucoup de temps parce que je suis 100% d'accord avec ce que dit Jérémy. Je pense que Jake Evans fait beaucoup de bonnes choses présentement, mais on se contre pas de menterie, là. J'espère que Kadeni est de loin un meilleur joueur de hockey que Jake Evans. Apporte pas la même chose, mais si c'est des buts dont on a besoin, ben, c'est pas Jake Evans qui va les apporter. Fait que, si Evans passe devant Kadeni, ça va être parce qu'on va avoir fait le choix de jouer comme ça en série, de juste dire, bon, ben, on va fermer la porte tôt si on réussit à prendre l'avance. Mais a priori, ce serait très difficile à justifier pour un entraîneur. En fait, je vois même pas, c'est un no-brainer en ce qui me concerne. C'est sûr que Kanemi est un meilleur joueur.
Alex?
Ben, le Canadien a passé toute la saison morte à dire qu'il fallait qu'il soit plus gros puis plus fort. Je verrais pas comment il pourrait enlever Kanemi de l'alignement au moment où tu rentres dans les séries contre des équipes qui sont grandes et fortes. C'est sûr qu'il va être dans l'alignement dans les séries.
Bon, Pradnour Singh nous demande, avec les jeunes qui montent comme Keke, Caulfield, Evans, Romanov et Primo, quels sont les vétérans qui ne seront pas de retour pour la saison prochaine?
Une question à 100$, ça.
Ben écoute, c'est sûr qu'on pourra en débattre pendant plusieurs heures, puis c'est un sujet qui va revenir souvent.
Il y a tellement...
C'est sûr que tu peux pas analyser puis dire, je laisse partir lui parce que dans les 5 dernières games, ça s'est bien passé. C'est un échantillon qui est très petit.
Les séries de fin de saison vont dire beaucoup de choses à tout le monde. Là.
Ouais.
On va voir comment Dano va performer, comment Tatar va performer, comment Armia va performer. Le repêchage d'expansion va changer la donne. Tu sais, il y a plein de choses qui vont arriver. Fait que donc, pour moi, je trouve que ça devient difficile de se prononcer maintenant. On a trop d'informations à les recueillir au courant des prochaines semaines. C'est plate comme réponse, hein?
Non, mais c'est un peu ça. Parce que si on avait une autre heure, peut-être qu'on pourrait en débattre, mais c'est pas le cas. Peut-être un petit mot là-dessus.
Il y a un joueur qui est très à risque, à mon avis, c'est Jake Allen. Sérieusement, je vois pas comment Seattle va passer par-dessus au moment du repêchage d'expansion, là, à moins d'avoir une offre mirabolante du Canadien pour ne pas le prendre. Mais à mon avis, il est supérieur aux autres joueurs qui sont disponibles chez le Canadien, qu'on pense à Edmondson ou Chiarot. Fait que c'en est un qui est possible. Puis je pense qu'au moins un des deux attaquants entre Tatar et Danault va partir.
Simon Olivier.
J'irais plus loin en disant que deux sur trois entre Tatar, Danault et Armia risquent de partir pour des raisons salariales. Et ça, pour finir sur une note légère, je veux juste vous rappeler que Alan Walsh, l'agent de Mikael Frolik, mm-hmm. a écrit sur Twitter aujourd'hui que le Canadien était 5-1 avec Frolik dans la formation et que Frolik avait fini ex aequo au premier rang du CH avec 3 tirs contre les Maple Leafs. Alors, est-ce qu'il faut signer Frolik?
Ben
voilà
le choix.
La grande question.
Pas le choix, pas le choix. Avec des statistiques de même, garde, on n'a pas le choix. Voilà. Bon, c'est tout pour l'émission d'aujourd'hui. Merci beaucoup à toute l'équipe d'avoir été là. Simon-Olivier Larange, Alexandre Pratt, Jérémy Rainville. Merci aussi à Maxime Paquette à la mise en onde. Mon nom, c'est Jérémy Filosa. Merci encore une fois d'avoir été là. On se retrouve sans faute vendredi pour un autre épisode de Sortie de zone. Salut tout le monde.